French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Expatrié. Nom. Adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien.
Quand on arrivait dans un nouvel endroit, comme quand on arrivait à Quanticité, c'était un peu comme nous contre le monde, on va dire. C'est un peu cheesy mais, de dire ça, mais je dirais qu'on était quand même un bon système de support.
Obviously, je suis plus américaine, mais j'aimerais me sentir plus française.
Moi, il y a quelque chose qui me dérangeait quand j'étais ado. Je trouvais qu'il y avait un regard très idéaliste sur la vie des enfants et des adolescents expatriés.
Nos parents, ils nous ont montré que genre, c'est dur de vivre loin de tout le monde, ça, c'est un peu bouleversant, mais c'est aussi une richesse de découvrir genre, de nouveaux endroits.
Ma mère racontait ma vie de lycée, elle racontait homecoming, elle racontait prom, et c'était vraiment le récit, tu vois, le cliché de la vie américaine, et je voyais les commentaires des gens qui disaient « ça me rappelle Saved by the Bell, ça me rappelle machin, ça me rappelle truc ». Je disais « mais c'est pas rose tout le temps en fait ».
À mon avis, je me sens plus américain parce que même si j'étais né en France, j'ai grandi aux États-Unis.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par petitpoussinny.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans entre 8h et 18h dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500 valable sur toute inscription de 6 mois ou plus avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
Première chose cool, c'est qu'on peut apprendre une deuxième langue.
Do you know what's special about you?
That I can speak 5 languages.
Oh, that's pretty awesome.
Deuxième truc cool, c'est que l'école, elle peut finir un peu plus tôt qu'en France. Par exemple, la mienne, elle finit à 3h de l'après-midi.
Ils s'appellent Mathilde, Sybille, Amélia et Cyprien. Ils vivent à Montréal, au Canada, à Paris, en France, à San Diego, en Californie ou encore à Kansas City, au Kansas. Tous sont nés en France, sauf Sybille, qui est née à Taipei, la capitale de Taïwan en Asie. Mais leur point commun, ce sont leurs parents, qui le 1er novembre 2008 ont décidé d'aller vivre aux États-Unis avec leurs 4 enfants. Mathilde, Sybille, Amélia et Cyprien sont frères et sœurs. Ils sont âgés de 15 à 25 ans et aujourd'hui, ils nous racontent l'impact de l'expatriation sur eux, en tant qu'individus, ainsi que sur leur fratrie. Début d'expatriation, adaptation, ressentiment éventuel même vis-à-vis des parents, mais aussi à moyen et long terme. Qui sont-ils? Comment se sont-ils construits? Quelles relations entretiennent-ils, ou non, avec la France? Se sentent-ils américains, français, les deux? Et comment envisagent-ils et elles le futur? On a souvent évoqué l'impact de l'expatriation sur les tout-petits. On a parlé des difficultés de l'apprentissage de la langue notamment. Et nous avions rapidement évoqué les conséquences sur le moyen terme de l'expatriation avec le témoignage de Marie Barrault dans un épisode hors-série de 2019. Comment est-ce que nos décisions d'adultes participent à la construction de nos enfants? Aujourd'hui, je vous propose une plongée au cœur d'une fratrie qui s'est soudée autour du monde avec des ados et jeunes adultes pleins de recul et passionnants. Je suis Anne-Fleur Andrely et vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Et je vous présente la fratrie Guglielmi.
Je m'appelle Mathilde, j'habite au Canada, près de Montréal, côté Ontario en fait. Donc je suis étudiante à McGill, mais avant ça j'habitais à Kansas City, donc c'est vraiment dans le milieu des États-Unis. Je suis américaine, mais originalement je suis française. Avant de vivre à Kansas City, j'ai vécu en Californie pendant quelques années, et avant ça évidemment en France. Je suis née à Grenoble, donc c'est une ville dans les Alpes.
Mathilde a vécu dans plusieurs pays du monde. C'est aussi elle l'aînée de la fratrie. Est-ce qu'elle se souvient de sa vie en France?
J'ai déménagé aux États-Unis quand j'avais 12 ans. Je dirais que c'est vraiment comme mon enfance et le début de mon adolescence que j'ai vécu en France. J'ai souvenir d'aller chez mes grands-parents dans les Alpes, ils ont un chalet. Et ça fait quand même pas mal de temps que j'y suis pas allée. Genre, je crois que la dernière fois que je suis allée en France, c'était en 2017 ou 2018. Et j'y suis pas allée parce que juste la vie est devenue un peu... genre, j'avais souvent des jobs l'été, puis après, il y a eu la pandémie, évidemment. Donc ouais, je dirais que la France, ça représente plus comme mes racines et mon enfance. Et ça représente aussi vraiment la famille, parce que, évidemment, j'ai des cousins et mes grands-parents qui vivent là-bas. La France aussi, enfin, ça représente aussi un peu les vacances, comme j'ai pas vécu en tant qu'adulte, en gros.
Je vous le disais en introduction, nous allons parler d'une fratrie. Une fratrie composée de trois sœurs, Mathilde, que vous venez d'entendre, Amélia, Sibylle et d'un frère, Cyprien. C'est aussi une fratrie qui vit sur quatre fuseaux horaires différents, mais qui reste profondément soudée. Et si nous faisions plus ample connaissance avec cette fratrie, justement ? J'ai demandé à chacun d'entre eux de se présenter.
Je suis l'aînée. J'ai deux sœurs plus jeunes que moi. Une qui a 2 ans de moins que moi, une qui a 5 ans et demi de moins que moi. Et il y a 10 ans entre mon frère et moi.
Moi, c'est Amélia. J'ai 23 ans. Je suis la seconde. J'habite à Paris. Et je suis actuellement en Master 1 en droit des affaires à l'université Panthéon-Assas.
Je m'appelle Sibylle, j'ai 19 ans et en ce moment je vis en Californie à San Diego. Je suis la troisième sur 4.
Je m'appelle Cyprien, j'ai 15 ans, je vis aux États-Unis au Kansas et je suis le dernier de la famille.
Et je dirais qu'on est assez proches, peut-être un peu moins maintenant qu'on est un peu genre éclatés de tous les côtés. On a d'abord déménagé en Californie, puis après à Kansas City. Donc, c'était quand même beaucoup de bouleversements. Donc, on était assez solid, genre on était assez proches. En tant qu'aînée, je dirais que je m'occupais pas mal des plus jeunes.
Mathilde me confie bien volontiers qu'elle est très proche de son frère et de ses sœurs. Pourtant, vous l'avez compris, physiquement, ils sont plutôt éloignés. Chacun dans une ville différente. 4 villes, 3 pays, 2 continents, 4 fuseaux horaires différents. Alors comment est-ce qu'on parvient à conserver cette proximité en tant que frère et sœur ?
Avant qu'on soit éclatés de tous les côtés de la planète, enfin, peut-être pas de la planète, mais du continent, on était assez proches. Parce que comme j'ai dit, on a beaucoup déménagé, donc c'était un peu comme on passait beaucoup de temps ensemble. Comme les week-ends, bon, on avait quand même des amis et tout ça, mais on passait beaucoup de temps genre en voyage, dans la voiture. On a fait pas mal de road trips avec mes parents. On s'entendait bien, on rigolait bien ensemble. Souvent avec Amélia, ma sœur avec qui j'ai 2 ans de différence, on gardait les petits, ils sont pas si petits que ça, mais quand ils étaient plus jeunes, on s'en occupait. Bien sûr, comme toute fratrie, il y a des disputes. Je me rappelle, genre, quand j'étais en high school, je faisais des devoirs, puis des fois, genre, les deux plus jeunes, ils venaient courir dans ma chambre et, genre, faire plein de bruit et me déranger, et c'était énervant. Mais c'était pas vraiment de grosses disputes, je dirais. Je suis pas mal proche, enfin, moins maintenant, parce que c'est dur avec la distance, mais de Amélia, parce qu'on a quand même pas beaucoup d'âge de différence, on a beaucoup de choses en commun, même si on a des personnalités, enfin, très différentes. Et avec Sibylle, on s'est rapprochés plus ces dernières années, parce que maintenant elle est comme une jeune adulte, mais comme on a 5 ans et quelques de différence, il y avait des moments justement au lycée où j'étais un peu moins proche d'elle, parce que genre elle était encore vraiment jeune, puis moi j'étais comme adolescente. Et avec Cyprien, ça a toujours été comme le petit bébé de la famille. Je vais dire que c'est un peu bizarre de le voir en tant qu'adolescent maintenant, mais ouais, en gros on avait quand même plutôt une bonne dynamique, les 4. Quand on arrivait dans un nouvel endroit, comme quand on arrivait à Kansas City, c'était un peu comme nous contre le monde, on va dire. C'est un peu cheesy mais, de dire ça, mais je dirais qu'on était quand même un bon système de support. C'est moi qui suis partie en premier. Ensuite, Amélia a eu un parcours un peu mouvementé. Genre d'abord, elle m'a rejoint à Montréal.
Ensuite, je suis retournée aux États-Unis et j'ai habité au Colorado 2 ans. Et après, j'ai voulu revenir en Europe. Et donc, je suis passée d'abord par les Pays-Bas où j'ai habité également 2 ans. Et donc, voilà, maintenant, je suis à Paris.
Et Sibylle et Cyprien, jusqu'à présent, ils vivaient ensemble. Et c'est vraiment en 2020, donc aussi pendant la pandémie, que Sibylle allait commencer sa licence à San Diego. Ouais, donc ça fait quand même 2-3 ans qu'on est vraiment genre un peu éclatés de partout. Avec la pandémie, ça a été difficile. Moi, j'ai pas pu aller en décembre 2020, j'ai pas pu rentrer. Mais en général, durant l'été, on se retrouve avec mes parents et tout le monde. Et aussi à Noël, normalement. Enfin, ce Noël-ci, on était tous là. Quand on est séparés, c'est compliqué parce qu'on est tous sur des zones différentes. Donc, par exemple, Amélia, elle a quand même une vie sociale vraiment... Genre, elle fait beaucoup de choses. Et Sybille, maintenant aussi. Je dirais que c'est plus facile de parler à une à la fois que genre les trois ensemble. Ça nous arrive des fois, on a un group chat sur genre Messenger et on échange des messages là.
Moi, Anne Fleur, je suis la seconde d'une fratrie de 5 enfants. Je suis la seule qui vit actuellement à l'étranger, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mes frères et sœurs ont voyagé eux aussi. Je me souviens de la frustration absolue pendant mes premières années aux États-Unis. Quand mes amis français ou autres étrangers avaient des rendez-vous bien définis chaque semaine pour parler avec leurs parents et leurs frères ou leurs sœurs. Et quand on est beaucoup plus nombreux, en fait c'est compliqué de concilier autant d'emplois du temps. Alors on passe beaucoup de temps à prendre des nouvelles, séparément. Et les oreilles de nos parents doivent pas mal chauffer. Sybille nous raconte comment ça se passe dans sa fratrie.
Je reste en contact avec mes parents par WhatsApp, par FaceTime... Souvent, tous les week-ends, j'appelle ma mère ou mon père. Avec mes sœurs, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a une qui habite au Canada. Donc, on se fait parfois des FaceTimes, genre 2 ou 3 fois par mois. Et puis, on s'envoie des photos et des textes.
Je dirais que je parle plus à Sybille qu'à Amélia par vidéo chat parce que c'est moins de différence d'heure. Puis, elle est plus disponible. Donc, c'est quand même compliqué, ouais.
On s'est pas vus pendant très longtemps. Parce que donc la pandémie a commencé il y a 2 ans. Ma grande sœur, par exemple, qui est à Montréal, je l'ai revue en été 2021, en août 2021. Mais avant cela, je ne l'avais pas vue depuis Noël 2019. Donc ça faisait plus de 1 an et demi que je ne l'avais pas vue. Je ne pense pas que notre relation, elle n'a pas souffert, mais je sens qu'il y avait quand même les liens qui s'affaiblissaient dans un certain sens. Et après, bon, Cyprien et Sybille, je les ai quand même pas vus pendant 1 an et ça, bah ça j'en ai souffert. Mais en fait, l'attachement que j'ai vis-à-vis de ma petite sœur et mon petit frère, c'est très différent parce que c'est un lien. Enfin, c'est ce que je m'imagine. Hein. Genre, j'ai bien sûr pas d'enfant et a priori, je suis pas censée en avoir pendant au moins très longtemps. Mais c'est un lien où genre j'ai presque un sentiment, un instinct maternel envers eux, tu vois. Protecteur, ça me rend triste de pas les voir grandir. Quand j'ai revu mon petit frère et que sa voix avait mué. Ça m'a touchée, tu vois, parce que je m'imaginais encore mon petit frère avec sa petite voix frêle de petit garçon. Et quand je l'ai revu, bah, j'étais là, bah, il s'est passé pour lui, enfin, dans sa vie, ça, c'est très conséquent, 1 an sans voir sa grande sœur, tu vois. Du coup, ça, je pense que ça m'a fait davantage souffrir.
Avec mon autre sœur qui est à Paris, aussi, on fait des FaceTimes, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a 9 heures de différence. On se parle une ou deux fois par mois, même moins.
Mais heureusement, on a quand même notre groupe chat, donc des fois, on peut s'échanger des messages et peut-être qu'on les voit pas tout de suite, mais on y répond plus tard.
Avec mon petit frère, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est vraiment Gen Z. On s'envoie des Snapchats ou des memes ou des TikToks. Puis parfois, je le FaceTime, mais très rarement.
Et avec mon petit frère, en général, j'appelle ma mère au moins une fois par semaine et il dit bonjour, enfin, il vient parler. Des fois, il prend le téléphone de ma mère et il me parle. Mais c'est dur de genre d'être tous ensemble, connectés en même temps. Je trouve que ça marche mieux des fois des fois, je suis comme « Ah, je vais appeler Sybille » et je l'appelle. Des fois, ça marche mieux que d'essayer de planifier. Souvent, elle répond. Enfin, si c'est pas une heure ridicule pour elle. Donc je trouve que, genre, des fois aussi, juste être comme spontané, ça peut aider, parce que des fois, on essaie trop d'être comme « Ok, à cette heure, tel jour », et après, on oublie.
Rester en contact au téléphone, par FaceTime, Messenger ou encore TikTok, c'est déjà super. Mais comment est-ce qu'on reste soudé, d'autant plus quand on traverse une pandémie mondiale sans pouvoir se voir, se toucher, s'embrasser, se câliner en tant que fratrie ? Amélia me raconte, depuis Paris, sa relation avec sa grande sœur Mathilde est restée au Canada.
La distance avec ma grande sœur, en fait, ça fait que il y a certaines choses qu'elle a traversées. J'avais du mal à mettre à sa place et à vraiment comprendre quelles conséquences ces événements ont engendré dans sa vie.
Amélia me parle d'une épreuve que Mathilde, sa grande sœur, a vécue sans la présence physique de sa famille, le décès de sa future belle-mère. Elle aurait aimé, bien entendu, être à ses côtés pour la soutenir, mais a fait de son mieux pour être là, malgré la distance.
Du coup, quand je l'ai revue en août, il y a une soirée où on était toutes les deux seules à la maison et on a discuté pendant des heures de plein de choses, de ça notamment, des événements qu'il y avait eu dans ma vie. Et là, j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose de très fort qui s'est passé entre nous, où on a toutes les deux... c'était un moment très émotionnel, émouvant.
D'être séparée de ma famille et de ma fratrie pendant la pandémie, c'était vraiment difficile. Surtout qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, surtout au début. Et quand même, décembre 2020, ça fait 2 ans, donc c'était quand même genre au milieu de la pandémie. Je me sentais un peu isolée. Parce que aussi, c'était vraiment strict au Canada et au temps de Noël. Je crois que tu pouvais juste voir ta bulle familiale. Et à l'époque, ma bulle familiale, c'était mon fiancé John et nos deux chats. On a trouvé des moyens. C'était quand même Zoom et d'autres plateformes. C'était quand même des sauveurs, d'une certaine manière. Parce qu'on a trouvé des moyens de faire des jeux de société en ligne. De se parler, de manger. On a fait des genre... pas non seulement avec mes frères et sœurs et ma mère, mon père, mais aussi avec genre nos cousins et nos oncles et tantes. On a fait genre des journées cuisine. Et je dirais qu'au début de la pandémie, on avait plus de temps pour genre s'appeler et tout ça parce que tout était un peu en suspens. Donc ça a vraiment aidé. Mais c'est vrai que c'était dur d'être loin. Je ne les ai pas vus pendant... j'ai envie de dire 18 mois, peut-être. 15 à 18 mois, donc un an et demi.
On s'est retrouvés, c'était pas loin de Denver, parce qu'en fait, on est partis en vacances. Au début, c'était un peu difficile parce qu'on était plus du tout habitués à la dynamique de se retrouver tous en famille. Donc c'était un peu délicat. Mais après, on s'est tous retrouvés à nouveau à Noël. Et là, par contre, je trouve qu'on a été beaucoup plus soudés en tant que fratrie à Noël.
Ayant vécu un peu partout, et souvent à l'étranger, dans leur enfance, adolescence ou même en tant que jeune adulte, je me suis interrogée sur la relation que ses frères et sœurs entretenaient avec la France.
On a quitté Grenoble en 2008, j'avais presque 10 ans. Moi j'ai habité à Taipei de l'âge de 1 an jusqu'à 3 ans et demi, il me semble. Peut-être plus, je ne sais plus trop. Enfin, j'en garde pas énormément de souvenirs, donc pour moi mon enfance c'est surtout la France, mais... c'est vrai qu'en fait, in fine, j'ai pas vécu tant d'années que ça en France. J'ai quand même l'impression d'avoir vécu des années qui étaient suffisamment formatrices, qui ont fait que ça reste une partie non négligeable de moi, de ma personnalité, de tout. Et il y a aussi tout l'aspect l'éducation familiale, en fait. Et ça, peut-être que les gens s'en rendent pas forcément compte, parce que souvent, quand je discute avec mes amis ici ou les gens que j'ai rencontrés, ils ont l'idée en fait que quand tu déménages dans un autre pays, tu vas tout de suite, genre, enfin pas tout de suite, mais si tu y as passé pas mal d'années, tu vas d'emblée en fait devenir, tu vas être plus dans ta mentalité, tu vas relever plus de la mentalité de ce pays-là que de la mentalité française. Alors qu'en fait, non, ma famille est française, elle reste française, donc il y a quand même un énorme aspect de mon identité et de ma culture qui reste français, en fait.
Et le départ de France, justement, est-ce qu'ils s'en souviennent ?
Pour être honnête, c'était vraiment dur. Quand j'ai déménagé, on est parti de Grenoble, en Californie, à l'origine. Donc c'était en 2008, on est parti le soir après Halloween, donc le 1er novembre, on est parti. Donc c'était pas le milieu de l'année, mais l'année scolaire avait déjà commencé. J'étais en 5e. Donc aussi, j'étais dans un âge un peu, genre le début de l'adolescence, donc c'était un peu compliqué. J'avais hâte de comme découvrir un nouvel endroit, puis les États-Unis, c'est un peu comme, enfin, glamour. Maintenant, plus tellement, parce que c'est ma vie, mais genre, ça avait un peu, surtout la Californie, c'est un peu cet air un peu magique. Donc je dirais que genre les premiers mois, j'ai pas trop profité parce que j'étais un peu déprimée d'être partie comme ça, d'avoir laissé derrière tous mes amis.
Au tout début, Je sais qu'avec ma grande sœur, avec Mathilde, on a vécu les choses d'une façon très similaire. Parce que de toute façon, on a... Enfin, même avant notre départ, on vivait souvent les mêmes stades de vie à peu près en même temps. Il y avait un peu une blague dans la famille comme quoi Mathilde et moi, on était jumelles, en fait. Et du coup, je sais que le départ, on l'a vécu de façon assez similaire, dans le sens où on était toutes les deux très... on a beaucoup exprimé notre peine de partir, notre désarroi face à toute la nouveauté de la Californie. Et même, par exemple, au lycée, je pense qu'un exemple concret, c'est qu'au lycée, il y avait... On a été 2 ans ensemble dans le même lycée, puisqu'on a un écart d'âge de 2 ans. Et chaque année, il y avait une compétition de poésie, ça s'appelait le Slam Poetry, je ne sais plus exactement le nom de la compétition, mais en gros, chaque étudiant pouvait présenter un poème et le mettre en scène devant un public d'autres étudiants. Et on avait toutes les deux écrit genre des poèmes sur le sujet de notre expatriation, de notre départ justement, et c'était vraiment genre les mêmes ressentis, les mêmes émotions. Et donc, je pense qu'au début, c'était vraiment très similaire. Après, avec Sybille, c'était avec ma petite sœur, c'est plus difficile parce que déjà, ben, c'est une personne qui intériorise beaucoup plus les choses. Mais je pense que peut-être qu'elle avait moins conscience de ce qui se passait. Mais d'un autre côté, elle était quand même assez... Elle n'était pas toute petite non plus, tu vois. Elle m'a déjà dit que ça l'a poussée à se poser des questions sur son identité. Mais peut-être pas... de façon aussi importante ou radicale que moi et Mathilde. Et Cyprian, il est tout petit, je pense que il y a beaucoup moins cet aspect de crise identitaire, où est-ce que j'appartiens, est-ce que je suis français ou américain. Je pense que lui, la France, c'est évidemment un pays dans lequel il a des racines, mais c'est surtout un pays qu'il a vu en vacances l'été, donc les rapports sont très différents.
Mais c'est vrai que genre on a découvert des choses merveilleuses, genre on a beaucoup voyagé en Californie, c'est vraiment divers, il y a des parcs nationaux, il y a l'océan, San Francisco c'est vraiment une belle ville. Il y avait une part un peu de merveilleux, mais c'était quand même difficile de s'adapter au changement.
J'aimerais vraiment retourner en France juste pour comment on dit, experience la vie en France, peut-être travailler là-bas, mais je sais pas pour l'instant. Mais oui, j'aimerais vraiment un jour retourner en France ou en Europe.
Il y a eu une évolution dans notre perception vis-à-vis de nos identités, nos pays, nos cultures. Et je pense que je sais pas ce qui a fait que j'ai voulu ça, mais je sais que j'ai, par rapport à mes sœurs, j'ai eu ce désir de revenir en France. Enfin, Mathilde, par exemple, elle n'est pas restée aux États-Unis. Et je pense qu'elle a trouvé un environnement qui lui permet d'avoir un peu l'entre-deux. Montréal, c'est bilingue déjà comme ville. Il y a pas mal d'enfants d'expat aussi. Et je pense que ça lui permet d'être en même temps dans un pays qui reste, dans la culture qui reste assez proche de celle des États-Unis, parce que ça reste une culture nord-américaine, mais où elle peut aussi retrouver l'élément de la langue française et de la francophonie. T'as moins l'impression de faire tâche quand t'es dans un environnement comme ça. Comme il y a plein d'enfants d'expat français et d'enfants d'expat tout court, tu t'es moins conscient de ta différence.
Être moins conscient de ses différences, ou encore avoir l'impression de faire tâche. Je trouve ces mots très forts, presque choquants. Choquants parce qu'ils vont vraiment à l'encontre des idées véhiculées à nous, adultes expatriés. J'ai décidé de scinder l'histoire de cette fratrie en 2 épisodes afin de vous permettre de l'apprécier à votre rythme. Et si vous êtes prêts, et bonne nouvelle, direction l'épisode suivant dès maintenant puisqu'il est déjà en ligne. Sur ce, je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée. À bientôt.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning.
French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.